Ce matin, nous allons continuer notre méditation, notre considération de 2 Pierre 1, 5 à 11. Je vais lire à nouveau ce passage. Pierre, il écrit pour une deuxième fois. Et il nous donne ces paroles qui sont précieuses. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre... » Non, je vais commencer en fait par le verset 3, juste pour nous donner le contexte. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire une vie pieuse, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour ou dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, myopie, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation ou appel et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ce sont les paroles de Dieu. Juste un petit rappel, ok? Il y a 2 semaines, nous avons considéré la première partie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on a de l'espérance pour cette vie. Parfois, nous perdons l'espérance, n'est-ce pas? Nous disons, ah, je peux plus. Bienvenue. C'est une... Une famille qui vient d'arriver à Pessac. Tu peux déplacer des chaises si tu veux. Ouais. Ok. Voilà. En 2 Pierre, d'accord, on a cette espérance pour la vie. C'est quoi? Que la divine puissance nous donne tout ce qu'il faut pour une vie pieuse. Parfois, nous disons, je ne peux pas vivre comme il faut, mais Dieu dit, non, je vous ai donné tout ce qu'il faut. Hein. C'est comme un père qui achète pour son fils tout ce qu'il faut hein, pour être un fermier, un agriculteur. Hein, d'accord? Il achète le terrain, il achète tous les matériaux, tous les animaux, tous les grains. Il donne tout à son fils et maintenant il dit, au travail. D'accord? Je vous ai donné tout, mais maintenant il faut que vous travailliez. Ça, c'est ce qu'on a considéré il y a 2 semaines. La semaine dernière, on a considéré un danger qui est caché. Et c'est quoi? C'est le fait que nous ne voulons pas travailler dans la vie chrétienne. Nous préférons que la vie chrétienne être un peu comme un train, d'accord? On achète le billet, on entre dans le train... On prend nos places et maintenant on fait ce qu'on veut, n'importe quoi, d'accord? Et un moment ou un autre, on va arriver au bout et on sort. Ça serait chouette si la vie chrétienne était un peu comme ça, n'est-ce pas? On croit et maintenant on peut se plaire comme on veut jusqu'au point où on entre dans le royaume éternel de notre Dieu. Ça, c'est pas comment Dieu, comment Jésus décrit la vie chrétienne. Et on va considérer ce matin la voix du Seigneur, ok? Voici les trois points. La vue d'ensemble de la lettre de 2 Pierre. Il faut connaître la lettre un peu pour connaître ce qu'on veut voir dans ces versets. La voix du Seigneur, ça c'est le deuxième point. Cette idée d'une voix. Et troisième, deux questions d'application pour nous. Ok? Assez simple. D'abord, quand on veut considérer ce que communique la lettre entière de Pierre, il faut noter que Pierre écrit aux croyants. Il suppose que ce sont des croyants qui lisent ou qui écoutent cette lettre. Pourquoi on dit ? La première phrase de la lettre, ok ? Il dit « À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. » Ici, il ne parle pas de la foi subjective qu'ils exercent envers Jésus-Christ. Il parle de la doctrine, de tout ce qui est lié avec Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il faut qu'il soit au centre. Ça, c'est un peu la foi chrétienne. Et ils ont reçu ce message et ils ont cru. Un peu plus tard, dans le même chapitre, « Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » C'est-à-dire, ce que je suppose, dit Pierre, c'est que vous êtes affermis dans la vérité. Et vers la fin, je ne donne pas toutes les raisons pour lesquelles on dit que c'est aux croyants, mais il dit, c'est pourquoi, bien-aimé, vous faites partie de la même famille avec moi. Et donc, je suppose que nous sommes frères et sœurs. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Première chose qu'il faut noter, c'est que Pierre suppose qu'ils sont des croyants. Deuxième chose, il écrit parce qu'il y a des faux enseignants qui tordent peut-être les lettres de Paul. Ils prennent des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Ils disent, ah non, mais regarde ce que Paul dit, et maintenant on a de la confusion. Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, des petits groupes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement. La voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Chapitre 2. Et il écrit aussi, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ils promettent beaucoup de choses, mais rien n'est là. D'accord? Des nuées qui chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Attention, d'accord ? Vous êtes, je suppose, des chrétiens, des croyants. Mais je vous écris parce qu'il y a un danger des faux enseignants qui viennent et qui veulent vous prendre de Jésus. Troisième chose, Paul écrit pour que les croyants ne perdent pas leur stabilité en Christ. Il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Et quand on dit la stabilité en Christ, en fait, ce qui est là, il dit en 2 Pierre 3, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté ou stabilité. Mais ce n'est pas juste une question d'être stable. En fait, il y a des conséquences qui sont pires. Pierre écrit pour encourager la persévérance jusqu'au bout de la voie du Seigneur. C'est pourquoi en 2 Pierre chapitre 1, il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est pas juste notre stabilité maintenant, il veut parler de notre entrée dans le royaume de Dieu. Il faut juste noter, est-ce que nous sommes déjà entrés dans le royaume de Dieu? Oui, d'accord? Parce que Paul dit en Colossiens, vous avez été transférés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils, d'accord, bien-aimé. Mais on attend la fin où le royaume sera établi parfaitement sur la nouvelle terre. Et il veut parler de ce jour dans le futur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ok? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Okay? Est-ce, quand vous lisez ça, qu'est-ce que vous pensez? D'accord? Est-ce que vous pensez, ah, d'accord, on veut noter qu'ici, il dit quelque chose. C'est traduit pour moi largement accordé. On peut dire que c'est richement, en fait. C'est le mot grec qui parle du fait que c'est richement accordé à nous. Donc, c'est ainsi en effet que l'entrée sera richement accordée. Et maintenant, il faut qu'on prenne le temps pour comprendre. D'accord? Parce que tout de suite, on a certaines idées peut-être qui viennent à l'esprit. Il faut juste noter qu'il parle de l'entrée au ciel. Je viens de dire, ça parle du futur. Il dit que l'entrée sera richement accordée et il lit l'entrée au verset précédent, n'est-ce pas? Parce qu'il dit, c'est ainsi. Et ça nous dit, il faut regarder avant. D'accord? Donc, pour compléter la logique, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, c'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Ce sont deux choses que Dieu a fait. D'accord? L'appel, l'élection, ce sont des choses que Dieu a fait en nous pour que nous puissions venir envers lui. Et il dit, il faut que vous faites des choses pour affermir l'œuvre du Seigneur, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. D'accord? C'est ainsi que l'entrée sera largement, richement accordée. Qu'est-ce qu'il veut dire? On a plusieurs options. D'accord? Est-ce qu'il veut dire que si vous faites tous vos efforts, Dieu ouvrira largement les portes du ciel pour vous? Mais attention, si ça c'est vrai, si nous ne faisons pas tous nos efforts, les portes seront seulement entrouvertes pour vous. D'accord? Est-ce, Est-ce qu'on veut dire qu'on va arriver au ciel et il faut se glisser pour entrer? J'ai crainte de le dire, parce que notre entrée est liée à qui? Est-ce que je vais entrer en raison de moi-même ou en raison de quelqu'un d'autre? Grâce à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on veut dire, est-ce que Pierre veut dire, si vous faites tous vos efforts, Dieu vous souhaitera chaleureusement le bienvenu. Mais sinon, Dieu vous ignorera quand vous arriverez au ciel. C'est-à-dire, si vous avez bien fait, c'est Pierre qui va vous recevoir, mais sinon, c'est Michael. Hein? D'accord? Est-ce que... Ah mince, c'est Michael qui est là, j'aurais dû faire mieux. Non, quand on arrive au ciel, nous serons reçus comment? Comme les enfants en Jésus-Christ. Est-ce que Pierre veut dire, si vous faites tous vos efforts, vous obtiendrez un plein salut, mais sinon vous serez sauvés, mais à grand peine? C'était tout juste. C'était 51% pour, 49% contre, donc entrez. Mais non. Parce que nous entrons dans le ciel grâce à quoi? Nos mérites ou les mérites de Jésus-Christ? Vous avez le droit de dire, d'accord? J'espère que vous allez dire les mérites de Jésus-Christ. Et la deuxième question, c'est quoi? Les mérites de Jésus-Christ sont-elles parfaites ou non? Elles sont parfaites. Et donc, j'ai du mal à imaginer que ça, c'est ce que Pierre veut dire. Okay? Mais je peux imaginer une quatrième chose. Si vous faites tous vos efforts, vous n'aurez pas des doutes quand vous arriverez au ciel. D'accord? Mais sinon, vous serez sauvés, mais vous ne jouerez pas de l'assurance à la fin de la vie. Ça peut être vrai. D'accord? Si on vit dans le péché, si on ne fait pas beaucoup d'efforts, on ne va pas avoir beaucoup d'assurance que Dieu travaille dans nos cœurs, n'est-ce pas? C'est un peu logique, hein? Si je ne vois pas la puissance de Dieu dans ma vie, je pose la question, Dieu est-il dans ma vie? Mais je ne pense pas que ça, c'est ce que Pierre veut dire. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que Pierre veut dire. Parce que Pierre, il ne semble pas parler de la manière qu'on sera reçu, ça c'était les trois premiers, ni l'état de notre assurance quand nous nous approchons à la fin de la vie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut parler du contraste entre l'apostasie et l'entrée au ciel. Est-ce que vous savez ce qu'est l'apostasie? C'est quand on renonce publiquement, définitivement, ce que nous avons dit qu'on croit. D'accord? On a dit, oui, je suis dans l'église, je suis croyant. 15 ans plus tard, on a des cas qui disent, non, je ne crois rien. Je ne crois plus. C'est faux. C'est pour les fous. Je quitte. Ça, c'est l'apostasie. OK? Pourquoi je dis ça? Parce qu'au verset 10 et 11, il parle du fait qu'on ne va pas tomber. Mais on va entrer. Et ça nous amène à cette idée, d'accord? Je vais sauter ça. Ça nous amène à cette idée de la voie de Jésus-Christ. Pierre nous enseigne que Dieu a choisi le moyen du salut, c'est Jésus seul, mais aussi la voie qui dirige au salut final. Et ça, c'est en fait la vie de Jésus en nous. OK? Et juste un peu pourquoi on parle de la voix du Seigneur ce matin. En fait, c'était utilisé plus pour les chrétiens que le mot chrétien dans la Bible. Okay? Le mot chrétien se trouve une seule fois dans la Bible, mais ils ont parlé beaucoup de la voix. Par exemple, Jésus dit, je suis le chemin. Plus tard en Actes 9:2, Paul cherche à arrêter ceux qui suivent la voie. Acte 19, certains disent du mal concernant la voie. Acte 19:23, il y a un grand trouble concernant la voie. Paul persécute la voie. Paul sert Dieu selon la voie. Et il dit à Félix, tu connais bien ce qui concerne la voie. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas trop mis dans nos cœurs quand on pense à ce qui est le christianisme. Et je vais juste utiliser une illustration de cette semaine. Je suis allé à l'hôpital Pellegrin avec Adeline pour qu'elle passe un test. Okay? Et ils ont dit qu'il faut suivre les flèches bleues. Okay. Pourquoi ils ont dit qu'il faut suivre les flèches bleues? Parce que dans le même couloir, il y avait plusieurs couleurs de flèches. D'accord? On peut imaginer ici, le rectangle, ça représente, d'accord, un couloir. Les deux traits là qui sont blancs, ici, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, ce sont la porte qu'il faut entrer. D'accord? Mais on a plusieurs. On est dans le même couloir. Je peux dire, oui, bon, je vais suivre n'importe quelle flèche. Mais si je choisis, par exemple, le vert, on arrive presque là, mais on prend une autre porte. On n'arrive pas au bout où il faut. Quand on pense au christianisme, ce qui arrive et ce qui est vrai, c'est un peu comme ça. On est dans un couloir. Il n'y a qu'un seul chemin ou voie qui arrive au bout. Mais dans notre couloir, il y a plusieurs qui semblent aller dans la même direction. Et on peut dire ça même dans le christianisme. On est dans le même couloir avec ceux qui partagent peut-être nos valeurs. N'est-ce pas? Ils disent, oui, je crois en Dieu aussi. Nous sommes pareils. Ou oui, nous voulons la paix. Nous voulons lutter même pour les bébés qui ne sont pas nés, qui ne soient pas avortis. Ou ils disent, oui, nous avons vraiment un amour pour la communauté chrétienne. Quand nous allons à l'église, nous sentons comme nous sommes aimés, nous sommes acceptés comme nous voulons, et ils ne suivaient pas le chemin de Jésus lui-même, ils suivaient le chemin d'eux-mêmes, en fait. Comment ils se sentaient. Et finalement, ce que nous voyons, ça peut être autour de 5 ans, de 15 ans, même de 25 ans, on arrive à une personne qui était dans le couloir avec nous, peut-être dans la même église, il arrive à suivre et on voit qu'en fait, il ne suivait pas la vie de Jésus. La vie de Jésus n'était pas en lui-même. Il était là ou elle était là parce qu'elle suivait d'autres choses qu'on partageait peut-être, mais en fait, qui n'était pas Jésus-Christ. Okay? Est-ce que vous voyez ça? Souvent, on a cette question, comment cette personne peut être dans l'Église pendant 10 ans, 15 ans, et tout d'un coup, elle part, et c'est pas juste partir pour aller à notre Église, elle quitte Jésus-Christ, elle se lance dans le monde pour faire n'importe quoi, et on se pose quelle question? Est-ce qu'elle a perdu son salut? D'accord? L'enseignement de la Bible, c'est clair que c'est non. Le salut vient de Dieu. C'est la vie de Jésus-Christ qui est en nous, qui va nous amener jusqu'au bout. Mais le problème, c'est quoi? Ils étaient dans le même couloir, mais ils suivaient la mauvaise voie. Ça, c'est un peu l'illustration, ça c'est comment je peux voir l'illustration de cette idée d'une voie du Seigneur. C'est quoi donc l'essence de la vie chrétienne? Il faut juste se rappeler que la Bible utilise plusieurs images. C'est la réconciliation, c'est la rédemption, c'est la justification, c'est la sanctification, c'est l'adoption, c'est la nouvelle naissance. Donc il y a plusieurs choses, mais Pierre, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est la participation à la nature divine. Ça, c'est ce qu'il a dit au début, dans sa lettre. Il dit, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Si on prend les paroles de Paul, c'est en Galate quand il dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et plus tard, au chapitre 5, il dit quoi? Portez le fruit de l'Esprit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Et donc, la vie chrétienne, la vie chrétienne a l'essence, d'accord? C'est quoi? C'est que Dieu crée quelque chose de nouveau en nous. Et cette nouvelle vie pousse. Et quand cette nouvelle vie pousse, elle va porter les choses dans la vie. Mais Pierre veut aussi nous donner ces sept balises, les marques de la voie du Seigneur. Le verset 5. J'ai lutté beaucoup cette semaine. Est-ce qu'on va prendre beaucoup de temps avec ces sept choses? Mais j'ai dit non, on ne va pas. Mais il faut juste noter qu'on reçoit la foi qui est le message de Jésus-Christ. On l'accepte, on le croit. Et maintenant, il dit, d'accord, vous ne pouvez pas rester. Merci pour ce paquet, de ce message. Je vais garder moi-même. Et maintenant, c'est comme je suis dans un train. Et je vais faire ce que je veux. D'accord? Je vais faire mon plaisir. Mais je sais, parce que j'ai le message, je vais arriver. Il dit, non. Il faut ajouter la vertu à cette foi. C'est quoi la vertu à la base? C'est quand quelque chose fait bien les choses pour lesquelles il a été créé. Si j'ai un marteau de vertu, c'est un marteau qui marche. Quand je tape, ça marche bien. Pour nous, c'est quoi? Nous sommes faits. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Nous recevons cette foi et maintenant il faut adopter cette idée que moi je vis pour la gloire de mon Seigneur et pas pour ma propre gloire. C'est un peu difficile, n'est-ce pas? Parce que nos cœurs disent quoi? Ah non, c'est ma gloire qui compte. c'est moi. Et Jésus est en train de dire non. C'est pas vous, c'est moi. À la vertu, il faut rajouter la connaissance qui est une connaissance qui vient par l'expérience. D'accord? Nous commençons à vivre la vie chrétienne et nous commençons à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Troisième chose, la maîtrise de soi. Ah, j'ai vu que ça ne marche pas, je dois maîtriser moi-même pour ne pas y aller à nouveau. La patience, la persévérance. La patience ici, c'est plutôt de soutenir et de continuer malgré l'opposition. Et quand on vit comme ça avec la persévérance, on va avoir la piété, le respect pour Dieu dans nos vies parce qu'on persévère quand même. Oui, c'est vrai que je suis fatigué. Et je suis facilement irrité maintenant, mais je vais maîtriser moi-même. Je vais être patient avec la situation pour que je puisse être pieux dans le bon sens devant mon Dieu. Je ne vais pas entrer dans la colère avec, par exemple, mes enfants ou quelqu'un d'autre. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi il faut faire tous des efforts. L'amour fraternel, ça c'est plutôt l'amour qu'on a pour les personnes qui sont comme nous. Et l'amour, c'est agapé, c'est l'amour même pour les ennemis, on peut dire. Il faut qu'on rajoute ces choses à la vie. Ce sont des sept marques de la voie du Seigneur. Si on demande, est-ce que je suis sur la voie du Seigneur? Est-ce que je suis en train de rajouter des choses par mes efforts à ma vie? Ça peut nous dire. Mais est-ce que nous savons comment rajouter ces balises à la vie? Si je vous pose la question, quelle est votre prochaine étape spirituelle? Et vous dites, qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Je dis, bon, est-ce que vous avez des péchés dans la vie? Oui, d'accord. Choisis un péché et est-ce que tu peux me dire comment tu vas avancer dans le Seigneur concernant ce péché? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez comment grandir dans la vie spirituelle? Bon, peut-être même si vous ne pouvez pas dire exactement des mots, oui, vous savez, peut-être pas. Pierre, il nous dit quelque chose à la fin de cette lettre. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Il dit qu'il va nous donner... Bon, on va j'ai pas mis le verset. Donc, si vous regardez à la fin de la lettre, chapitre 3, le verset 17. Venez donc, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis maintenant, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est quoi le contraire? Mais croissez dans la quoi? Grâce et la connaissance de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce que vous savez que la croissance spirituelle, ce n'est pas de dire, ah, il faut que je trouve une loi pour me diriger? Non. Jésus est venu pour casser tout ça. Hein? En fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la grâce. Croître dans votre connaissance de la grâce et de la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est comment on peut vaincre le péché dans nos vies. D'accord? C'est pas par les systèmes. Si vous avez un problème de colère, il faut compter jusqu'à 20. Il faut penser il faut avoir des pensées paisibles. Ça va vous... Non, en fait, c'est Jésus-Christ seul. Le plus que on le connaît, le plus qu'il devient de plus grand en nous que nous-mêmes. Il devient plus grand que notre colère. Ça, c'est ce qu'il faut avoir. C'est Jésus-Christ en nous. Et ça nous amène, d'accord, à la fin de la voie du Seigneur. Et ce que Jésus nous a dit, c'est qu'il y a une entrée richement accordée, pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce qu'on est en Jésus-Christ. Ça, c'est le message de Jésus. Du début à la fin, en moi, vous êtes accueillis par le Père, avec une entrée qui est très, très riche. Ça, c'est notre avenir en Jésus-Christ. On n'a pas de crainte que le Père va nous regarder et il va croiser les bras. Il va nous donner des gros yeux, hein, et on va entrer dans le ciel avec beaucoup d'honte. Non, Jésus a dit, vous pouvez aller même maintenant avec audace. Même avec audace en Jésus-Christ. Ça, c'est la fin. Le début, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et la voie, c'est quoi? C'est la vie de Jésus-Christ qui croît en nous. Voilà, ça c'est ce que Pierre et la Bible nous enseignent. Et juste deux questions d'application. Suis-je sur la voie du Seigneur? D'accord? Il faut qu'on pose cette question. Nous pouvons être dans le même couloir, mais nous pouvons suivre plusieurs pistes. Peut-être on est sur les vertes, les flèches vertes, les flèches bleues, les flèches blanches, je ne sais pas. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est sommes-nous sur la voie du Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que nous avons trouvé un lieu qui s'accorde avec nos sentiments, nos valeurs, qui nous donne quelque chose qu'on aime bien? Il y a une différence parce que nous devons être sur la voie de Jésus. Jésus en nous qui croit. Et la deuxième question. Est-ce que je fais l'effort pour mieux connaître Jésus à travers les moyens qu'il me donne? Que faites-vous avec ce que Jésus, votre berger, vous donne? Par exemple, la Bible, la lecture quotidienne, oui, mais la méditation, la mémorisation. Que faites-vous avec l'enseignement, la prédication de la Bible? Parce que ça, c'est important. Si vous voulez connaître Jésus, vous n'allez pas trouver Jésus dans les autres livres d'histoire dans le monde. Il faut lire sur lui dans la Bible. Qu'est-ce que vous faites avec la prière? Et bon, on peut rendre la prière plus compliquée qu'il faut, hein? Est-ce que vous parlez à votre Père en disant merci, en disant j'ai besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez de la communion? La communion fraternelle. On a les réunions officielles de l'Église, mais aussi, est-ce que vous faites l'effort pour être avec les autres chrétiens hors des réunions? Parce qu'il y a de la grâce qui entre dans la vie à travers la communion fraternelle. Et j'ai mis juste une dernière chose, mais la nature. Est-ce que vous déplacez avec les yeux ouverts pour dire, regarde ça, la beauté de notre Dieu, l'intelligence de notre Dieu, la bonté de notre Dieu, toutes ces choses sont là. Et la question pour nous, si nous sentons qu'on n'avance pas trop, que faisons-nous avec ces choses? Parce qu'ils sont là pour nous aider à croître dans la grâce, notre connaissance de la grâce et de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est la parole pour ce matin et j'espère qu'on va être édifiés. D'abord, christianisme, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui en nous qui nous amène jusqu'au bout. Mais nous avons le privilège de travailler avec lui pour que sa vie devienne de plus en plus grande dans nos vies et que nous soyons des personnes qui participent de plus en plus à la nature divine pendant cette vie et ce qui sera accompli dans la vie à venir parfaitement en Jésus-Christ. Prions. Dieu soit avec nous. Merci pour ce que tu as fait en Jésus-Christ. Nous sommes humbles devant toi quand nous considérons que Jésus vit en nous. Et c'est sa vie qui croît en nous. Et aide-nous de faire tous nos efforts pour rajouter à la foi ces caractéristiques de Jésus-Christ. Nous prions ces choses dans le nom de notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.